Journal d'un écrivain, 1876, février, chapitre 1. Le moujik Marei. Je vais vous raconter une anecdote. Est-ce bien une anecdote ? C'est plutôt un souvenir. J'étais alors un enfant de 9 ans. Mais non, j'aime mieux commencer à l'époque où j'étais un jeune homme de 20 ans. C'était le lundi de Pâques. L'air était chaud, le ciel était bleu, le soleil éclatant brillait haut dans le ciel. Mais j'avais du noir dans l'âme. Je rôdais autour des casernes d'une maison de force, je comptais les pieux de la solide palissade qui entourait la prison. Depuis 2 jours, la maison d'arrêt était en fête, si l'on pouvait ainsi dire. Les forçats n'étaient plus menés au travail, beaucoup de détenus étaient ivres, des querelles s'élevaient de toutes parts. On hurlait des chansons obscènes, on jouait aux cartes en se cachant. Quelques déportés étaient étendus à demi-morts après avoir subi de mauvais traitements de la part de leurs camarades. Ceux qui avaient reçu trop de mauvais coups, on les cachait sous des pelisses de peau de mouton, et on les laissait se remettre comme ils pouvaient. On avait même plus d'une fois dégainé les couteaux. Tout cela m'avait plongé, depuis que duraient les fêtes, dans une sorte de désolation maladive. J'avais toujours eu horreur de la débauche, de la soûlerie populaire, et j'en souffrais plus là qu'en tout autre lieu. Pendant les fêtes, les autorités de la prison ne visitaient plus les bâtiments, ne perquisitionnaient plus, ne confisquaient plus l'alcool, admettant qu'il fallait bien laisser les pauvres diables de galériens riboter au moins une fois dans l'année. Mon dégoût pour ces malheureux réprouvés se transformait peu à peu en une sourde colère. Quand je rencontrais un Polonais, un certain monsieur Mchki, détenu politique, il me regarda d'un air sombre, ses yeux étaient pleins de rage, ses lèvres tremblaient. « Je hais ces brigands » gronda-t-il à demi-voix, en français. Puis il me quitta. Je rentrai dans la caserne, et ce que j'aperçus tout d'abord, ce furent 6 moujiks robustes qui se jetaient tous ensemble sur un tartare nommé Gajne, qu'ils se mirent à frapper cruellement. Cet homme était ivre et il le battait comme plâtre. Un bœuf ou un chameau aurait été tué par des coups pareils. Mais on savait que cet Hercule n'était pas facile à tuer et l'on cognait dessus à cœur joie. Un instant après, je vis Gajne allongé sur un lit et déjà inanimé. Il gisait, lui aussi, couvert d'une peau de mouton, et tout le monde passait en silence aussi loin que possible de sa couche. On espérait bien qu'il reviendrait à lui vers le matin. Mais, comme le disaient quelques-uns, « Dame, après les coups qu'il avait reçus, il pouvait bien crever de la raclée. » Je regagnai l'endroit où se trouvait mon lit, en face d'une fenêtre garnie d'une grille de fer, et m'étendis sur le dos, les yeux fermés. On ne viendrait pas me déranger si je paraissais dormir. Je voulais oublier, mais les rêves ne venaient pas. Mon cœur battait terriblement, et les paroles de Mchki me résonnaient aux oreilles. « Je hais ces brigands !» Mais pourquoi décrire toutes ces impressions ? Je les ressens encore souvent en rêve, et ce sont mes songes les plus affreux. On remarquera que, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai presque jamais parlé de mes années passées au bagne. Les « Souvenirs de la maison des morts », que je publiais voici 15 ans, semblent l'œuvre d'un personnage fantastique. Je les donnais comme rédigés par un noble russe, assassin de sa femme. J'ajouterai à ce propos que beaucoup de braves gens se figurent encore aujourd'hui que c'est pour le meurtre de ma femme que l'on m'envoya en Sibérie. Voici que je m'égare, comme je m'égarais alors, dans mes pensées. Pendant ces 4 années de bagne, je revoyais sans cesse mon passé. Ces souvenirs renaissaient d'eux-mêmes, et ce n'est que rarement que j'ai pu les évoquer de nouveau à ma volonté. Cela partait d'un point quelconque de mon histoire, parfois d'un événement sans importance, et peu à peu, le tableau se complétait, me donnant l'impression forte, profonde et entière de ma vie. Mais ce jour-là, je revins bien loin en arrière, jusqu'à un moment de ma première enfance. Je me revis à 9 ans, au milieu de scènes que j'avais absolument oubliées. Je me retrouvais dans un village où je passais le mois d'août. L'air était clair et sec, mais la température était fraîche. Le vent soufflait, l'été approchait de son déclin. Bientôt nous retournerions à Moscou. L'ennui allait revenir avec les leçons de français. Il me serait bien pénible de quitter la campagne. Je m'en fus derrière l'enclos où s'élevaient les meules de blé. Puis, après être allé jusqu'au ravin, je montai au losc. On nommait ainsi chez nous une sorte de brousse d'arbustes qui croissait entre le ravin et un petit bois. Je m'enfonçai dans la broussaille quand j'entendis, non loin de moi, à une 30aine de pas peut-être, vers la clairière, la voix d'un paysan qui labourait un champ. Je devinai facilement que son travail était rude, qu'il retournait un champ placé en pente, que son cheval avançait péniblement. De temps à autre, le cri du paysan parvenait jusqu'à moi. Je connaissais presque tous nos moujiks, mais ne pouvais savoir quel était celui qui labourait à présent. Cela, du reste, m'était fort égal. J'étais plongé dans mes petites occupations. Il s'agissait de me couper une baguette de noisetier pour aller taquiner les gredouilles. Et les badines de noisetier étaient si belles, mais si peu solides. Ce n'était pas comme les branchettes de bouleau. Je trouvais aussi de magnifiques scarabées et des hannetons superbes. J'en ramassais. Puis aussi des lézards, tout petits et si agiles, rouges et jaunes, ornés de points noirs. Mais j'avais peur des serpents, plus rares d'ailleurs que les lézards. Il y avait peu de champignons, ce qui me dégoûta de la brousse. On en trouvait beaucoup sous les bouleaux. Aussi me décidai-je bien vite à partir pour le petit bois, où il n'y avait pas seulement des champignons, mais encore des graines bizarres, de gros insectes et de petits oiseaux. On y voyait même des hérissons et des écureuils sous la feuillée, dont j'aimais tant les parfums humides. En écrivant ceci, je sens encore la fraîche odeur de notre agreste bois de bouleau. Ces impressions-là restent pour la vie. Tout à coup, après un long moment de silence, j'entendis distinctement ce cri. « Au loup !» Je fus pris de terreur, poussai moi-même un cri et courus vers la clairière pour me réfugier auprès du moujik qui labourait. C'était notre moujik Marei. Je ne sais pas si l'almanach contient un tel nom, mais tout le monde appelait ce paysan Marei. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand et robuste, portant toute sa barbe blonde fortement grisonnante. Je le connaissais, mais ne lui avais encore presque jamais parlé. Il arrêta sa rosse en m'entendant crier, et quand je fus près de lui, m'accrochant d'une main à sa charrue et de l'autre à sa manche, il vit que j'étais épouvanté. « Le loup !» clamai-je tout essoufflé. Il leva la tête et regarda de tous côtés. « Où diable vois-tu un loup ?»« Quelqu'un a crié, au loup, voici un instant !» balbutiai-je. « Il n'y a pas de loup, tu perds la tête. Où a-t-on jamais vu des loups par ici ? » fit-il pour me rendre courage. Mais je tremblais de tout mon corps et me pendis plus lourdement à sa manche. Je devais être très pâle, car il me regarda comme effrayé pour moi. « Peut-on se faire des peurs pareilles ? Aïe, aïe !» Il hocha la tête. « Va donc, mon petit, il n'y a aucun danger !» Et il me caressa la joue. « Voyons, voyons, calme-toi, fais le signe de la croix !» Mais je ne pouvais y parvenir, et les coins de ma bouche tremblaient convulsivement, paraît-il, et on m'a dit plus tard que c'était ce qui l'avait le plus frappé. Il tendit doucement son gros index barbouillé de terre et toucha très légèrement mes lèvres tremblantes. « Dans quel état se met cet enfant ?» Et il sourit d'un sourire comme maternel. Je compris enfin qu'il n'y avait pas de loup en vue et que j'avais eu une hallucination en croyant entendre crier. J'étais alors sujet à ces erreurs nerveuses de Louis. Cela m'a passé avec l'âge. « Eh bien, je puis m'en aller alors ? lui dis-je en le regardant interrogativement d'un œil encore humide. « Oui, va, je veillerai sur toi comme tu marcheras. Je ne te donnerai pas au loup, » ajouta-t-il. Et j'eus plus que jamais l'impression que son sourire était un sourire de maman. « Va, que le Christ soit avec toi !» Il fit sur moi le signe de la croix et se signa lui-même. Je partis en me retournant presque tous les 10 pas. Toujours je vis Mareille qui me suivait de l'œil, et chaque fois il me fit un signe de tête amical. J'avoue que j'avais alors un peu honte de ma peur. Toutefois, je craignais encore vaguement le loup. Quand j'eus refranchi le ravin, l'épouvante disparut brusquement. Mon chien Voltchok bondit vers moi, venant de je ne sais où, et avec mon chien je me sentais plein de courage. Toutefois, je me retournai une dernière fois vers Mareille. Je ne pouvais plus, de si loin, distinguer les traits de son visage, et cependant je devinai qu'il me souriait toujours tendrement. Je le vis hocher la tête. Je lui fis avec la main un signe d'adieu auquel il répondit, et ce n'est qu'alors qu'il repartit avec son vieux cheval. J'entendis de loin son cri « Hu ! Hu !» et la rosse tira de nouveau la charrue. Je me suis souvenu de tout cela, je ne sais pourquoi, revoyant tous les détails avec une netteté admirable. Mais je ne fis, à l'époque, aucune allusion à mon « accident » en rentrant à la maison. Je n'y pensais bientôt plus. J'oubliais même assez vite Mareille et le service qu'il m'avait rendu. Les rares fois que je le rencontrais, par la suite, non seulement je ne lui parlais plus du loup, mais encore je n'eus avec lui aucune espèce de conversation. Et brusquement, 20 ans plus tard, au fond de la Sibérie, tout s'est représenté à moi, comme si je venais à peine d'entendre crier « Au loup !» L'aventure s'était en quelque sorte dérobée à moi-même, pour reparaître quand cela serait nécessaire. Tout m'est revenu à l'esprit, le sourire tendre et comme maternel du pauvre Moujik Serre, ses signes de croix, ses hochements de tête amicaux, qui, me semblait-il, me protégeaient de loin. Cette phrase a rechanté en moi. « Dans quel état se met cet enfant ?» Et ce que j'ai revu le mieux, c'est ce gros index barbouillé de terre avec lequel il toucha d'une façon si caressante mes lèvres qui tremblaient. Certes, n'importe qui eût tâché de rassurer l'enfant apeuré, mais ici il y avait autre chose. J'aurais été son propre fils qu'il ne m'eût pas regardé avec un amour plus profond et plus apitoyé. Qui le forçait à m'aimer? Il était notre serf. Je ne pouvais être pour lui qu'un jeune maître. Personne ne voyait sa bonne action, et il était sûr de n'en être pas récompensé. Il aimait donc si tendrement les petits-enfants? Quelle douce bonté presque féminine peut se cacher dans le cœur d'un rude, d'un bestial Moujik russe? N'est-ce pas de cela que parlait Constantin Aksakov quand il célébrait la haute culture de notre peuple? Et quand je me levais de mon lit, quand je regardais autour de moi, dans ce bagne, je sentis que je pouvais considérer ces pauvres hôtes d'un tout autre œil qu'auparavant. Toute haine et toute colère sortirent de mon cœur. J'observais sympathiquement tous les visages que je rencontrais. Ce Moujik déshonoré que le rasoir du bagne a fait glabre, ce Moujik dont le visage porte les stigmates du vice, cet ivrogne qui braille sa chanson d'obscène soulard, c'est peut-être Mareille. Puis-je pénétrer jusqu'à son cœur? Non. Alors, pourquoi le jugerais-je? Le soir même, je rencontrai encore le Polonais Mshki, infortuné Mshki. Il n'est pas, évidemment, riche comme moi de souvenirs où des gens comme Mareille jouent un rôle. Il ne peut juger ces tristes Moujiks du bagne autrement qu'il ne l'a fait quand il a dit « Je hais ces brigands ». Ces pauvres Polonais ont sans doute souffert bien plus que nous. Chapitre 2. Sur les avocats en général, mes impressions de naïf et d'ignorant, sur les talents en général et en particulier. Je désirerais dire quelques mots sur les avocats, mais à peine ai-je pris la plume que je rougis déjà de la naïveté de mes questions et propositions. Il serait peut-être enfantin de ma part de m'extasier longuement sur l'institution utile et agréable qu'est celle des avocats. Un homme a commis un crime, il ne connaît pas les lois, il est sur le point d'avouer, mais paraît l'avocat, qui lui démontre non seulement qu'il a eu raison, mais encore qu'il est un saint. Il cite quelques lois, explique tel arrêt de telle cour de cassation, tel senatus consulte, qui donnent à l'affaire un aspect absolument nouveau, et finit par tirer son homme de prison. C'est délicieux! On pourrait peut-être laisser entendre que c'est immoral. Mais enfin, vous avez devant vous un innocent qu'un trop habile réquisitoire du procureur général va envoyer à la mort pour un forfait perpétré par un autre. L'accusé n'est pas très clair dans ses réponses, il se borne à grommeler « Je ne sais rien, je n'ai rien fait », ce qui, à la longue, irrite juge et juré. Mais voici qu'entre en scène le digne avocat qui a perdu ses cheveux en s'exténuant sur des textes légaux, qui connaît toutes les lois et tous les arrêts, qui déconcerte le procureur général et fait acquitter l'innocent. Oui, l'avocat est utile. Que deviendrait sans lui l'innocence? Mais je ne dis rien de neuf. Tout cela est archi connu. Et c'est bien une excellente chose que d'avoir un avocat. J'ai eu moi-même ce bonheur, une fois que, par inadvertance, j'avais laissé imprimer dans le journal que je dirigeais un article qui eût dû, avant de passer, obtenir l'autorisation de Monsieur le ministre de la Cour. On m'annonça que j'étais inculpé. Je ne voulais même pas me défendre, tant ma faute était évidente pour moi-même. Mais la cour me désigna d'office un défenseur qui me révéla tout à coup non seulement que je n'étais pas coupable, mais encore que j'avais admirablement bien fait. Comme de juste, je l'écoutais avec plaisir. Le jour des débats, je ressentis une impression tout à fait neuve en entendant mon avocat plaider. Me sachant complètement dans mon tort, les théories du dit avocat tendant non seulement à me faire acquitter, mais encore à m'obtenir des félicitations, me parurent si amusantes, oserais-je dire si attrayantes, que je compte cette demi-heure passée au tribunal au nombre des meilleurs moments de ma vie. Je fus condamné à 25 roubles d'amende et incarcéré pendant 2 jours au corps de garde, où je passais mon temps assez agréablement et même d'une manière profitable, car je fis connaissance de quelques genres d'individus et de quelques détails de vie absolument insoupçonnés de moi. Mais voilà encore une forte digression. Revenons aux choses sérieuses. La profession d'avocat est morale et édifiante quand le titulaire emploie son talent à défendre des malheureux. L'avocat devient alors un ami de l'humanité. Mais on est très naturellement porté à penser qu'il défend souvent sciemment des coupables et les fait acquitter. Il est vrai qu'il ne peut guère faire autrement, et tout le monde me dira qu'on n'a pas le droit de priver un accusé de l'assistance d'un avocat. D'accord. Mais il me semble qu'un avocat aura bien du mal à éviter de mentir et de parler contre sa conscience. Il vous est arrivé d'entendre l'un d'entre eux déclarer à la face du tribunal que ce n'est que convaincu de l'innocence de l'accusé qu'il a consenti à se charger de sa défense. Mais un soupçon méchant ne s'est-il pas immédiatement glissé en vous? Combien lui a-t-on donné pour sa conviction? Car on a vu, et pas très rarement, des prévenus défendus avec la plus belle ardeur qu'on était obligé de condamner, parce que leur culpabilité sautait aux yeux. Je ne sais pas s'il y a chez nous des avocats vraiment capables de s'évanouir en entendant prononcer un verdict qui frappe leur client, mais on en a connu qui versaient des larmes. Quoi qu'il en soit, cette profession a ses beaux et ses vilains côtés. Pour le peuple, l'avocat, c'est la conscience louée, et l'appellation n'a rien de flatteur. Du reste, laissons cela, je n'y entends pas grand-chose. J'aimerais mieux m'occuper du talent de ces avocats. Une question difficile se pose. Est-ce le talent qui possède l'homme ou l'homme qui possède le talent? Il semble qu'un homme ait le plus grand mal à faire obéir son talent, tandis que le talent domine presque toujours son possesseur en l'entraînant où il veut. Gogol raconte quelque part qu'un menteur veut un beau jour raconter une histoire quelconque. Il se peut qu'au début, il dise la vérité, mais à mesure qu'il parle, il se présente à son imagination de si beaux détails qu'il raconte un tissu de mensonges. Le romancier anglais Thackeray nous présente un type de mondain ayant ses entrées chez des lords et toujours préoccupé du désir de laisser derrière lui, en partant, une traînée de rire. Aussi réserve-t-il toujours son meilleur trait pour la fin. Il me semble à moi qu'il est très difficile de rester véridique, alors qu'on ne pense qu'à garder le plus beau pour la fin. C'est une hantise, du reste, si mesquine qu'elle doit à la longue enlever tout sentiment sérieux à sa victime. Avec cela, si l'on n'a pas fait une suffisante provision de bons mots, il faut en improviser d'autres. Et l'on a dit que, pour un bon mot, certains hommes n'épargneraient ni père ni mère. On me répondra qu'avec de telles sévérités, il devient impossible de vivre. Mettons que j'aille un peu loin, mais toujours est-il que chez les hommes de talent, il y a quelquefois une grande facilité à se laisser entraîner hors du droit chemin et une sensibilité exagérée qui les rend peu véridiques. Bielinski méprisait extrêmement ce genre de faiblesse qu'il appelait l'onanisme du talent. C'était des poètes que parlait Bielinski, mais il y a un peu de poésie dans tous les talents. Un menuisier de talent a son côté poète. La poésie, c'est, pour ainsi dire, le feu intérieur de tous les talents. Et si un menuisier peut être poète, à plus forte raison un avocat. Je ne conteste pas qu'avec une sévère, une rigide honnêteté, un avocat ne puisse arriver à réfréner sa sensibilité. Mais des détails si pathétiques peuvent naître de l'émotion du défenseur qu'il se laissera aller à leur faire un sort. Cette sensibilité a parfois les effets les plus graves dans la vie courante de chacun, dans la vôtre, dans la mienne. Observez-vous bien vous-même, et vous verrez comme elle vous mènera facilement au mensonge. Je suis sûre qu'on n'a pas oublié chez nous Alphonse de Lamartine, qui fut en quelque sorte chef du gouvernement provisoire en France pendant la Révolution de 48. On dit que rien ne lui plaisait plus que d'adresser au peuple et aux députations, venues de tous les coins du pays, des discours interminables. C'était un poète d'un grand talent. Toute sa vie fut admirablement probe. Sa figure était belle et imposante, bien qu'un peu trop pareille aux illustrations des keepsakes. Il écrivit, outre ses volumes de vers, une très belle histoire des Girondins qui le rendit populaire. Or, un jour qu'il avait prononcé l'un de ses longs discours dont les phrases harmonieuses le grisaient lui-même, un plaisant, le montrant à la foule, s'écria « Ce n'est pas un homme, c'est une lyre !» C'était un éloge, mais il renfermait une malice. Je sais bien qu'il est très irrévérencieux de comparer ce poète, cet orateur lyre, à quelqu'un de nos disers avocats finaux et un peu fripons de temps à autre. Mais je voulais dire qu'eux non plus ne peuvent se débarrasser de leur lyre. L'homme est faible quand il ambitionne des louanges, même s'il est un peu fripon. Certains avocats défendent leur lyrisme aussi naïvement que le marchand de Moscou défendait son argent. Le père de ce marchand lui avait laissé un joli capital, mais sa mère était aussi dans le commerce de son côté et y mangeait tout ce qu'elle avait et plus. Elle s'adressa une fois à son fils pour qu'il la tirât d'affaire. Le cas était grave. Il y allait pour elle de la prison. Le marchand aimait sa mère, mais cette affection ne pouvait se comparer à celle qu'il portait à ses roubles. « Si je te prête de l'argent, dit-il à sa mère, je diminue mon capital. Or, mes principes m'interdisent de diminuer mon capital. Donc, je ne puis te prêter d'argent. » Et sa mère dut se résigner à faire connaissance avec la geôle. Les avocats dont nous parlons remplacent simplement le mot « capital » par le mot « talent » et tiennent à peu près le discours suivant. Notre genre de talent ne peut se passer d'éclat. Or, nous voulons continuer à avoir du talent. Donc, nous ne pouvons renoncer à l'éclat. Il y a des avocats très honnêtes gens qui ne sauraient modérer leur lyrique sensibilité, même quand ils plaident une cause qui répugne à leur conscience. J'ai toutefois entendu raconter qu'en France, il y a bien longtemps de cela, il y eut un avocat très consciencieux qui avait cru, à tort, à l'innocence de son client. Les débats modifièrent sa conviction, et quand il fut autorisé à prendre la parole, il se contenta de se lever, de s'incliner devant la cour et de se rasseoir sans avoir dit un mot. Je crois que chez nous cela ne pourrait pas arriver. « Comment, se dit un des nôtres, me résignerais-je à ne pas faire tout pour gagner ma cause avec le talent que j'ai? Non seulement j'aventurerais mes honoraires futurs, mais encore je compromettrais ma réputation. » De sorte qu'il n'y a pas que la question d'argent qui soit terrible pour l'avocat. Il y a encore la question d'orgueil professionnel.